dans le Nouveau Testament, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 9. Et retenons bien ici cette épître, c'est l'épître aux Corinthiens, donc ce n'est pas l'Église modèle. Et pourtant, Paul va dire, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. L'idée d'un Dieu fidèle parcourt toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais remarquez bien que cette épître aux Corinthiens, qui n'est pas donc une église modèle, eh bien Dieu leur dit, mais Dieu pourtant est fidèle avec vous. Malgré le désordre qui peut régner dans votre église locale, Dieu reste fidèle. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, et on le voit bien dans cette épître, Paul ne leur dit pas, bah, restez comme vous êtes, puisque Dieu est fidèle. Au contraire, ils sont repris très sévèrement. Et pourquoi ils sont repris sévèrement? De changer d'attitude, de mentalité, de venir à la repentance, c'est justement parce que Dieu est fidèle. Fidèle quand il promet les bénédictions, mais il reste fidèle aussi dans ses jugements. Ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Alors, en plus, cette épître, Paul ne s'adresse pas seulement à un lieu, à une église précise. Il dira au verset 1 et 2, et bien aussi à tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et leur Seigneur est le nôtre. Ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens, il nous le dit pour nous ce soir. Dieu est fidèle. Alors les promesses de Dieu, elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Et il démarre cette épître en disant que Dieu donc nous appelle à être en communion avec son Fils, avec Jésus-Christ, parce que Dieu a mis au fin de compte toutes les grâces, les bénédictions et les promesses en Jésus-Christ. Et puis, les promesses de Dieu donc sont oui et amen en Jésus-Christ, et pourtant bien des choses dans Corinthiens laissaient à désirer. Alors je n'ai pas fait toute la liste de tous les reproches que Paul peut faire dans cette épître, vous prendrez le soin de lire, mais vous verrez qu'il y a des choses terribles, puisqu'il va jusqu'à dire qu'il y en a parmi vous qui ont pour femme la femme de leur père. Il y a même à l'extérieur les gens du dehors, eh bien, vous condamnent, vous jugent, parce qu'eux-mêmes ne pratiquent pas les péchés que vous commettez. Donc ça allait très loin dans ce côté. Et pourtant, Paul leur dit, mais Dieu est fidèle. Bien des choses donc laissaient à désirer à Corinthe, et pourtant, Dieu avait enrichi ses croyants. Et ça, c'est quand même quelque chose qui peut nous surprendre. Comment Dieu peut-il enrichir des gens qui vivent dans le désordre? Parce que Dieu ne se repent pas des dons qu'il fait à ses enfants. On a reçu des dons, et si un jour on venait à s'éloigner, même à renier le Seigneur, peut-être pour un temps, et je ne le souhaite pas, Dieu restera fidèle jusqu'à un certain temps parce que sa fidélité sera pour moi, pour nous, un temps de responsabilité, surtout quand on prend conscience de ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Et quand Paul dit, eh bien, vous avez reçu au-delà, même tous les dons, eh bien maintenant, vous, face à ce que Dieu vous a donné, vous êtes responsable de votre vie devant Dieu. D'ailleurs, 1 Corinthiens 1, verset 7, Paul dit bien, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Une église, donc, était vraiment riche dans ce domaine-là, et pourtant. Ce qui montre bien que les dons nous sont accordés aussi pour l'attente de la venue du Seigneur. Le Seigneur ne nous donne pas des dons pour qu'on soit seulement vu des hommes, ou qu'on puisse s'élever devant les autres en disant « Vous avez vu, moi, ce que je fais, moi, j'ai prophétisé, moi, je prêche. » C'est des dons qui sont donnés pour le bien commun, mais en même temps, tous les dons, les grâces que nous recevons de la part de Dieu, c'est pour nous préparer à la venue de Jésus. Et Paul dit bien de sorte qu'il ne vous manque aucun don, et ensuite il dit « Dans l'attente, où vous êtes de la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. » On ne joue pas avec les grâces et les dons de Dieu. Et la fidélité de Dieu, eh bien, ne peut que me rendre humble. Parce que j'ai besoin de sa fidélité. Nous connaissons nos limites. On sait que parfois on est défaillant dans certains domaines. Et parfois, il faut le dire, on est infidèle. Quand on commence à s'éloigner de moins en moins peut-être les fréquentations dans la communion fraternelle, dans la méditation de la parole, la prière ou autre. C'est une forme d'infidélité, mais malgré cela, Dieu lui va rester fidèle parce que son but, c'est qu'il ne désire qu'aucun ne périsse, mais qu'on parvienne au but qu'il a fixé pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, quelle bonté de Dieu malgré leur infidélité. Et quand je lis cela et que je le réalise, je ne peux que m'incliner devant ce Dieu. Il aurait pu très bien claquer la porte à cette église en disant « Maintenant, débrouillez-vous, moi c'est pas ce que je veux », mais non, il veut un changement. Et ensuite, quand nous lisons la deuxième épître aux Corinthiens, on s'aperçoit que les Corinthiens ont été véritablement touchés par cette première épître, par les avertissements de Paul, et quand on prend conscience que Dieu est fidèle dans ses grâces, dans ses promesses, mais aussi dans ses jugements, on ne peut que s'incliner et aussi d'assurer et d'assumer nos responsabilités vis-à-vis de ce que nous avons reçu, eh bien, de sa part. Et pourtant, combien ces hommes sont coupables d'une telle infidélité malgré tout ce déploiement de la bonté de Dieu. Nous n'avons et nous aurons aucune excuse devant le Seigneur si nous manquons au but. Si je suis infidèle, ce n'est pas parce que Dieu ne m'a rien donné. Les Corinthiens avaient tous les dons et pourtant ils étaient infidèles. Ils ont commis des péchés que peut-être on ne voudrait même pas nommer. Donc, mon infidélité ne vient pas de ce que Dieu ne fait rien. Mon infidélité peut venir justement, peut-être, que je me refroidis, que je commence à m'éloigner. Et quand on commence à sentir ces choses, il est temps de dire stop et de revenir dans sa présence, de revenir dans l'humilité. S'il y a des choses à confesser, eh bien, de le faire parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle et juste pour nous restaurer, fidèle et juste pour nous rétablir spirituellement, dans sa communion. Et il est fidèle et juste aussi pour nous redonner ce feu spirituel, le feu de l'esprit dans notre vie. Il est fidèle et juste aussi pour aussi guérir et délivrer. Lui, Dieu ne change pas. C'est nous qui sommes des montagnes russes. Dieu nous suit. Parfois, il doit avoir des hauts de cœur, des fois, mais il nous suit parce qu'il est fidèle et juste. Et il ne veut pas que nous périssions. Et cependant, tous ses dons, tous ses grâces et sa fidélité, elle nous prépare pour la venue de Jésus. Parce qu'un jour ou l'autre, eh bien oui, nous serons irréprochables. Mais ça, c'est un temps à venir. Si nous sommes honnêtes, on peut savoir que aujourd'hui, Christ ne peut pas être totalement glorifié dans nos vies, ni dans nos pensées, ni dans nos paroles. Parce que là, ça circule. Hein. C'est pire que le périph' à Paris, hein, en pleine semaine. Mais la langue, essayons de retenir notre langue. Un jour, il faudrait qu'on se relève un défi, c'est que, tenez, à partir de maintenant, n'ayons plus aucune mauvaise pensée. Aucune. Et celui qui arrive, eh bien, qu'il le dise. C'est pour vous dire, oui, nous sommes appelés à glorifier Christ, on le glorifie avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons reçu, mais avec aussi notre maturité spirituelle, comme nous comprenons les choses. On a des degrés différents. Mais la fidélité de Dieu est aussi pour nous amener au summum de la sainteté. Vous serez saints comme je suis saint. Ces choses sont à venir. Et ça, c'est une perspective qui doit nous motiver à rester fidèles envers Dieu et de profiter de ses grâces. Comme dira Paul aux Thessaloniciens au chapitre 1er verset 10, quand ce jour-là, quand Jésus reviendra, nous serons manifestés irréprochables et Christ sera glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Aujourd'hui, vous avez, il faut le dire, des fois des chrétiens, vous le regardez, vous vous demandez s'ils sont convertis. Vous voyez les attitudes qu'ils ont, vous demandez, on se pose des questions. Alors qu'on devrait, c'est vrai, rayonner de la présence de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, Paul dit, il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit de bien, soit de mal. Si Paul le dit, c'est qu'au fond, nous faisons des bonnes choses, mais nous faisons aussi de mauvaises choses. Tant que nous serons ici-bas, oui, nous aurons des défaillances. Soyons vrais, et non pas des hypocrites, mais vrais, même si nous échouons. On n'est pas là pour se critiquer, pour se juger. Parce que pour ça, il y a un tribunal. Je parle du tribunal et non pas du grand trône blanc. Le tribunal, c'est là où l'Église va passer, non pas en jugement, mais elle sera quelque part jugée en fonction de ce que nous aurons été ici-bas. Et tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons pensé sera pesé dans la balance du tribunal de Christ. Et tout ce qui n'était pas à sa gloire, tout ce qui n'était pas de l'Esprit, sera consumé comme le feu, parce qu'on va passer au travers du feu, et tout ce qui n'était pas de l'esprit va disparaître, parce que rien d'impur ni de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Et tout ce que nous aurons pu faire, dire, penser, qui était vraiment du Saint-Esprit, alors ça demeurera, et cela nous suivra durant toute l'éternité, et là nous recevrons les récompenses. Certains n'auront rien, comme le brigand sur la croix. Il a été sauvé de justesse. Au tribunal de Christ, il va entrer. Mais quelle récompense ! Il n'aura rien fait pour la gloire de Dieu ici-bas. Il n'aura pas pu combattre pour la sanctification. Il n'aurait pas pu être un témoin de Christ parce qu'il est mort avant. Mais parce qu'il a mis déjà sa foi en Jésus-Christ, c'était déjà suffisant pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais quel gâchis ! Quel gâchis, finalement ! Il entrera, il passera au tribunal de Christ, mais qu'aura-t-il à présenter au Seigneur ? Et Paul ici dit bien à des chrétiens, eh bien n'oubliez pas qu'il y a un tribunal. Et cela devrait aussi éveiller chez nous une prise de conscience de notre vie en Christ ici-bas. Non pas pour nous juger, mais certainement pour nous exhorter de dire attention, là, c'est pas trop catholique. Il faut se ressaisir. Alors nous sommes appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et être appelés à la communion de son Fils, c'est-à-dire marcher comme lui-même a marché. Jésus lui-même pouvait dire « Je t'ai glorifié, Père. Je t'ai glorifié. » Jésus, dans sa chair, a glorifié le Père dans son œuvre, dans ses paroles, mais aussi dans ses pensées. Et ça, on peut le dire parce que l'Écriture nous assure qu'il était sans péché. On ne peut pas en dire pour nous-mêmes, dire que j'ai glorifié le Père. Quand on dit « je te glorifie, Seigneur », c'est bien, mais est-ce qu'il y a une vérité profonde de cela ? Aujourd'hui, quel a été mon comportement, par exemple ? Je prends des exemples simples, mais en tant que témoins de Christ, nous devons être la lettre de Dieu aux hommes qui annoncent Christ. Alors, nous avons besoin que le Seigneur nous aide à concevoir cette réalité que Dieu est fidèle. Même dans nos dérapages, dans notre infidélité, mais cela ne veut pas dire de rester dans l'infidélité parce qu'il est fidèle. C'est comme ceux qui vont dire, ah ben, péchons parce que la grâce de Dieu surabonde, alors péchons, allons-y. Non, nous avons besoin d'une puissance qui est bien plus grande que la puissance du péché. Et cette puissance qui est supérieure à la puissance du péché, c'est la grâce de Dieu. Et un homme qui se repent et qui reçoit le pardon de ses péchés, il reçoit cette grâce qui surabonde sur lui, et bien le péché, pour en être délivré. Mais mon infidélité ne va pas supprimer ce que Dieu est, loin de là, heureusement. Sinon il serait un peu girouette le Seigneur. Mais quand Dieu a dit une chose, il l'accomplit, que je le sois ou non fidèle. Mais justement parce que je découvre que Dieu est fidèle, alors je m'efforce, moi, à être fidèle dans mon témoignage, dans ce que j'ai reçu de la part de Dieu, dans cette communion aussi fraternelle. Alors, marcher avec lui, comme lui-même il a marché, marchons avec lui. Dans le service, mais aussi dans la souffrance, dans l'opprobre, dans la prière, dans la louange, eh bien, il demeure et il reste fidèle. et il l'opérera en nous pour produire de tels résultats. Dieu ne veut pas que nous nous perdions, mais que nous soyons élevés et que nous marchions de progrès en progrès. Ne soyons donc pas découragés en considérant nos faiblesses. Oui, nous sommes faibles. Et pour ça, on peut dire « Merci Seigneur, parce que je suis faible, alors c'est alors que je serai fort, parce que Dieu va pouvoir justement manifester sa puissance en moi. Tant que je penserai que je peux m'en sortir de moi-même, eh bien, j'empêche Dieu d'intervenir. » Ça, c'est comme Samson, connaissait son histoire. Il jouait avec le péché, il jonglait, il s'amusait. Et puis jusqu'au jour, je vais m'en sortir comme les autres fois. Mais ce qu'il n'avait pas senti, c'est que Dieu s'était retiré. Alors, dans nos faiblesses, eh bien, Dieu peut manifester sa force. C'est Paul qui va dire, c'est quand je suis faible, alors je suis fort. Et combien dans l'Écriture nous voyons des hommes qui avaient des instruments vraiment très faibles par rapport à une armée et qui gagnaient. Cela montre bien que Dieu, eh bien, c'est lui qui mène le combat pour nous. Mais nous soyons des canaux pour lui. C'est vrai que nous pouvons aussi pleurer sur nos manquements qui sont tellement nombreux. Mais il y a une différence entre présenter nos faiblesses à Dieu en pleurant « Ah Seigneur, tu vois combien je suis faible, j'y arrive pas », alors que ça serait dire « Seigneur, oui, je suis faible, mais parce que je suis faible, Seigneur, je sais qu'en toi, eh bien, tu vas pouvoir te manifester, tu vas pouvoir me redresser. » Pourquoi Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent ». Ce n'est pas des gens qui s'amusent à pleurer, à geindre jour et nuit. Mais ils ont une raison, le pauvre en esprit, c'est justement celui qui reconnaît sa faiblesse et qu'il reconnaît son besoin. Donc le fait d'être faible, je peux que me réjouir en me disant, c'est dans ma faiblesse alors que Dieu va se manifester. Il faut le laisser agir, alors que cela nous humilie profondément. Alors on peut venir à celui qui veut travailler en nous et qui est fidèle et que rien en nous n'entrave l'accomplissement de ce travail divin. Et ce qu'il a commencé, il l'achèvera, il ira même plus loin, il l'amènera à la perfection. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Alors c'est super, j'avais dit que j'allais enregistrer, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Rires.